Olivier Grenouillot, bonjour.
Bonjour.
On vous doit des livres qui font autorité sur l'esclavage, mais aujourd'hui vous publiez aux éditions du Cerf L'invention du travail. Alors un livre qui se passe en Occident, hein. Vous n'êtes pas allé fouiller dans les autres cultures. Mais en Occident, on voit bien en vous lisant que ce qu'on appelle le travail a évolué avec le temps.
Ah oui, le travail a évolué, mais l'objet du livre n'est pas d'étudier, je dirais, les modalités du travail, mais la manière dont sans arrêt les sociétés ont pensé et repensé le travail, d'où le titre de l'invention du travail. Ce n'est pas la date à laquelle le travail aurait été inventé, mais bien comment les hommes ont pensé le travail, et ce, je dirais, depuis la Mésopotamie antique jusqu'à aujourd'hui.
Au fond, c'est un livre sur les discours qui se sont succédés sur le travail.
Sur les discours et le travail, peut-être pourrait-on commencer par essayer de définir ce que peut être le travail. Le travail, c'est forcément une activité volontaire. Hein. Et orientée vers quoi? Orientée d'abord vers la satisfaction de besoins, je dirais, élémentaires. Et donc, c'est là que le travail, qui donc action, devient parfois labeur. Mais le travail aussi, les porteurs de sens. Hein. De sens pour l'individu, pour la société, connotation matérielle, mais des sens également spirituels. Et donc, ce faisant, le travail est aussi œuvre, ou il peut devenir œuvre également. Voilà.
Vous expliquez que le néolithique est devenu la pierre angulaire d'un discours assimilant l'invention du travail à l'entrée dans un cercle malfaisant. Alors, il faut revenir sur le néolithique, hein, bien entendu. C'est le moment où on invente l'agriculture, où on se sédentarise. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'avant le néolithique, du temps de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, bien on ne travaillait pas.
Oui, alors ça, cela renvoie à ce qu'on peut rappeler les récits sur les origines, nos origines. Et donc, il y a d'abord le premier récit, peut-être on en parlera, qui est biblique. Hein, là, lorsque Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, il y a la révolution industrielle, qui est aussi un début du travail pour certains. Et puis, il y a, c'est vrai, le néolithique. Avec finalement, je dirais, deux récits qui s'opposent. Le premier récit, c'est celui du 19e siècle, Darwin et les autres, l'évolutionnisme. Et donc, lorsqu'on passe des chasseurs-cueilleurs à des sédentaires, agriculteurs, éleveurs, c'est vu comme un progrès merveilleux. Voilà. On passe de la sauvagerie, on entre dans la civilisation. Et puis, je dirais, depuis les années 1970, il y a un discours tout à fait inverse qui s'est mis en place et qui nous tend à considérer finalement les chasseurs-cueilleurs comme des gens heureux, en harmonie avec la nature, ne travaillant pas, ne connaissant ni la guerre, ni les inégalités.
Vivant dans l'abondance aussi.
Dans l'abondance. Hein. Alors, c'est le titre d'un ouvrage, Âge de pierre, âge d'abondance, mais c'est plutôt Âge de pierre, âge de suffisance. Hein. Au contraire, et justement, le travail avec l'élevage, l'agriculture, ouvre la voie ensuite à la mise en place des premiers villages, des cités-états, de l'écriture, et c'est l'entrée dans l'histoire, avec ce que l'on imagine, à savoir la guerre, la domination, l'exploitation, l'esclavage, etc. Et donc, c'est vrai que pour certains aujourd'hui, le néolithique paraît être une sorte de paradis passé. Hein. Mais j'ai bien paraît parce que cette vision des choses, comme je le montre dans le livre, est quelque peu idéalisée.
L'Antiquité connaît un certain mépris pour le travail. Hein. Travailler était considéré comme méprisable, c'était bon pour les esclaves. L'élite en était dispensée, c'est-à-dire les nobles, les guerriers, les prêtres, les philosophes comme Aristote et Platon. L'idéal, au fond, c'était de vivre de ses rentes, sans contrainte.
Ça, c'est l'idéal de quelques personnes finalement privilégiées. Comme vous dites, Platon, Aristote, etc. Et souvent, on se limite à cela pour qualifier les mondes anciens. Avec l'idée que le travail aurait été longtemps méprisé, avant la fin du XVIIIe siècle, Adam Smith et la révolution industrielle, où on l'a au contraire valorisé. En fait, à chaque époque, il y a des discours, je dirais, favorables et défavorables au travail. Dans la Grèce ancienne, finalement, ce qui n'est pas accepté, ce qui est mal vu, c'est travailler pour d'autres. C'est-à-dire, quand vous travaillez pour d'autres, vous avez des contraintes, vous êtes dépendant de la personne qui vous donne un salaire, et donc vous perdez un petit peu de votre liberté. Par contre, le travail pour soi et au sein de ce qu'on appelle l'oïkos, donc le système rural familial, c'est très bien vu. Les dieux, Apollon oui, construit les murailles de Troie, Héphaïstos forge les armes d'Achille, et puis lorsque Ulysse rentre à Ithaque, déguisé en mendiant, il lance un défi à l'un des prétendantes Pénélope, son épouse, il lui dit « on va voir lequel de nous deux peut tracer le sillon le plus droit ». Et donc, le travail n'est pas dévalorisé globalement. C'est le travail pour autrui qui est dévalorisé, hein, je dirais.
Et dans la Bible, dans le monothéisme, comment est vu le travail ?
Alors là aussi, on peut commencer peut-être par la petite phrase qui est censée tout résumer, à savoir, quand Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre, tu travailleras, l'homme, à la sueur de ton front. Hein. Et donc, comme s'il y avait une malédiction pesant sur le travail. Ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque dans la Genèse, le serpent est maudit, la femme devra accoucher finalement dans la douleur, et la terre est maudite. La terre ne produira plus spontanément. Mais ce n'est pas le travail qui est maudit. Et lors de la seconde alliance, après le déluge, entre Dieu et Noé, Dieu dit que plus jamais il ne maudira la terre à cause de l'homme. Donc je dirais que le travail n'a jamais été maudit, et la malédiction pesant sur la terre était provisoire. Et tout au contraire, dans la Bible, nous montre que le travail est valorisé. C'est l'oisiveté, finalement, qui est décriée. Le travail est valorisé. Dieu, le Créateur, travaille. Le Christ, lorsqu'il rencontre les premières personnes qui deviennent ses apôtres, les rencontre en train de travailler. Et puis Paul écrit des textes très très forts sur la nécessité de travailler. Mais la question qu'on peut se poser, c'est mais ce travail, pourquoi ? Alors, l'Ancien Testament et le Nouveau ne disent pas forcément la même chose, mais travailler dans l'Ancien Testament, grâce à son travail, si on est juste, si on suit les préceptes divins, on peut réussir. Voilà. Mais à chaque fois, même la réussite est sous la condition finalement du regard divin, et la réussite n'est qu'en partie illusoire. C'est la parabole dans le Nouveau Testament du riche propriétaire qui se demande combien de greniers va-t-il devoir finalement construire de nouveau pour accueillir tout ce qu'il a. Mais on lui dit peut-être que dans la nuit, il va mourir. Et donc toute richesse est illusoire. Et peut-être que ce qui est essentiel dans la Bible, le message principal, c'est que le travail est œuvre. C'est l'œuvre divine de création. Et puis dans cet testament, il y a trois mots qui disent ce que l'homme doit faire. Et l'homme doit dominer, puisque Dieu dit que l'homme doit dominer les animaux. Voilà. L'homme doit garder finalement la création, et cultiver. Cultiver, c'est faire fructifier ce que Dieu a donné, et en se faisant, en cultivant, se cultiver soi-même. Et ce que met en avant, au-delà de cela, finalement, le Nouveau Testament, c'est le travail, je dirais, comme relation à autrui, comme service à autrui. Et donc, on est très loin de l'idée d'une malédiction du travail. Le travail peut être difficile, mais c'est un moyen de rédemption. Et c'est une manière de recréer l'harmonie entre Dieu et les hommes, et entre les hommes eux-mêmes.
On continue dans un instant avec Olivier Grenouillot. On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Olivier Grenouillot qui publie « L'invention du travail » aux éditions du Cerf. À partir de l'an 1000, s'établit une société en trois ordres, hein, les guerriers, les prêtres et les travailleurs, au fond.
Oui, et d'ailleurs, c'est la première fois que la société est ainsi officiellement divisée en fonction des tâches accompli par chacun. Parce que donc, celui qui prie, c'est une tâche aussi. Celui qui défend est une tâche aussi. Hein. Et celui qui travaille la terre, c'est une autre tâche. Mais les trois sont considérés un peu comme un travail. Regardez dans la vie monastique. On oppose... Il y a trois choses dans la vie monastique. La prière, la méditation, et puis le travail. Le travail dans les champs, etc. Alors, selon les époques, selon les règles, finalement, l'une ou l'autre de ces tâches prend de l'importance. Et souvent, c'est la... ce sont les exercices spirituels qui sont valorisés. Mais néanmoins, dans la vie monastique, l'exercice spirituel, c'est une tâche obligatoire, réglée, normée, répétitive. Et cet exercice spirituel revêt finalement les caractères d'un travail. Inversement, le travail des mains. Dans la vie monastique, les mains servent aussi à copier les manuscrits. Et ce travail-là, des mains manuelles, permet d'accéder à une certaine spiritualité. Donc même s'il y a une inégalité, je dirais, entre types de travaux dans la vie monastique, en réalité, il y a une frontière très poreuse entre travail manuel, travail de l'esprit, etc.
C'est au Moyen-Âge que l'idée de travailler plus pour vivre mieux commence à cheminer, vous le racontez, Olivier Grenouillot. Mais la grève, telle que nous la connaissons, et on en connaît certaines en ce moment de façon assez lourde, est-ce que la grève existait ?
Alors on peut se poser la question, si la grève existait, enfin telle qu'on la conçoit, Il y a plusieurs types en fait de contestation, de rébellion, d'opposition. Il y a la fuite ou le départ, ce qui est valable pour les ouvriers un peu qualifiés, qui, lorsqu'ils ne sont pas contents du salaire, vont dans une autre ville parce qu'ils ont une qualification, ils savent qu'ils ont trouvé un emploi. Il y a aussi des interruptions de travail pour avoir un salaire un peu supérieur. Mais tout dépend en fait au Moyen-Âge de type de qualification que vous avez. Et les métiers les plus difficiles sont ceux dans le textile, où finalement le prix d'un objet textile, à 60%, c'est la main-d'œuvre. Et donc si on veut rogner sur le prix, on rogne sur les salaires. Et dès l'époque médiévale, il y a des catégories d'ouvriers qui sont extrêmement exploitées.
Au fond, c'est à cette époque-là que l'enrichissement est lié au travail, ce qui n'était pas le cas auparavant. On travaillait pour vivre, pas pour devenir riche. D'ailleurs, ce n'était pas en travaillant qu'on devenait riche, c'était en naissant la plupart du temps. Là, se met en place petit à petit l'idée qu'en travaillant, on va pouvoir s'enrichir.
Oui, alors l'idée, enfin pas forcément d'enrichissement tel qu'on la conçoit, mais l'idée d'une certaine opulence grâce au travail, elle est ancienne. Hésiode, les travaux, les jours. Si on travaille, on peut réussir. Et même l'aiguillon de la réussite chez Hésiode, et 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, est là. Mais néanmoins, c'est vrai, c'est plutôt l'époque moderne que l'idée d'enrichissement tel qu'on la conçoit apparaît. Hein. Et notamment, c'est l'époque moderne qu'il y a ce qu'un historien appelait la révolution industrieuse. C'est-à-dire que certains, souhaitant consommer davantage, se mettent à travailler davantage. Et puis il y a aussi, à partir de l'époque moderne, il y a toute cette classe bourgeoise qui se met en place. Et un bourgeois peut être riche, mais socialement, il ne compte pas. Et donc, le bourgeois qui a réussi doit générer un discours, je dirais, un discours de légitimation du travail, de son travail. Et donc, on se met à dire que le travail, il a des vertus propres, etc. Et donc, à ce moment-là, l'idéologie sert, finalement, l'accession économique et politique de la bourgeoisie.
Au fond, c'est avec la révolution industrielle que le travailleur se prolétarise, parce que ses conditions de travail deviennent infernales. Mais en même temps, plus c'est dur, plus le travail est valorisé.
Oui, oui, oui. Alors, je consacrerai d'ailleurs un futur ouvrage sur le premier âge de la prolétarisation qu'on a vraiment oublié. Mais il est vrai qu'à l'époque de la prolétarisation, système extrêmement contraignant, ceux qui pensent le travail, mais qui ne sont pas ouvriers, imaginent que par le travail, l'humanité pourra s'accomplir. Même Karl Marx. Karl Marx, qui est un critique finalement du système capitaliste, qui démontre les mécanismes de l'aliénation finalement par le capital, etc. L'objectif de Karl Marx, après, dans sa société finalement communiste idéale, après, c'est d'arriver à ce qu'il appelle en 1875 l'individu intégral. Et l'individu intégral, c'est quelqu'un qui a, dit-il, un besoin vital d'autrui. Et comment Marx conçoit cette relation à autrui ? Il la conçoit par le travail, les produits que chacun va façonner pour l'autre. Donc je dirais que même ceux qui critiquent l'aliénation du travail à l'âge de la prolétarisation imaginent que le travail peut libérer, débarrasser de tout cela, être un élément finalement de concorde.
Et aujourd'hui, Olivier Grenouillot, ce serait l'épanouissement par le travail ? Ce serait ça qui nous caractériserait, nous ?
Alors aujourd'hui, on pourrait parler d'une crise du travail. Hein. Déjà, dans les années 1970, il y a une crise de l'emploi. Tout le monde ne peut pas avoir un emploi. Et puis de cette crise, de ces crises conjoncturelles, parce que le problème de l'emploi persiste, est arrivée l'idée d'une crise structurelle. Hein, Jeremy Rifkin, avec son livre « La fin du travail », il pensait que intelligence artificielle et puis robotisation feraient que plus tard, l'homme n'aurait plus besoin de travailler. Et aujourd'hui, il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler une crise de la valeur travail, puisqu'on se met à critiquer le rôle positif que pourrait jouer le travail. Au XIXe siècle, comme je le disais, le travail est vu comme un facteur finalement utile dans l'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, on critique notion de progrès. Travailler pour maîtriser la nature, c'est plutôt perçu comme négatif. Au XIXe siècle, on pensait que la libération de l'individu se ferait dans la société, par la coopération. Aujourd'hui, c'est plutôt l'ère de l'individu. Et donc, dans les jeunes générations, l'idée du travail n'est plus perçue comme naturellement devant conduire un épanouissement individuel. Voilà. Et donc, il y a une crise de leur travail aujourd'hui, même si on peut toujours essayer de, sinon de le réenchanter, du moins de, je dirais, de repenser le sens de la valeur travail.
L'invention du travail, c'est signé Olivier Grenouillot et ça vient de paraître aux éditions du CERF. Merci Olivier Grenouillot.
Merci.
On fait une pause, on se retrouve juste après le travail, la sexualité.